Voilà. Ben bonjour à toutes et à tous. Merci. C'est vraiment une réelle joie ce matin que d'être avec vous et puis de voir cette église aussi remplie. Hein, parce que c'est vrai qu'au mois d'août et au mois de juillet, ben, on était pas peu nombreux, mais c'était les vacances. Et là, vraiment, c'est une joie que de savoir que tout le monde est rentré. Moi, je suis aussi en joie parce que ce matin, là, il y a des chants vraiment. Mathias a choisi des chants. J'aurais vraiment même pas osé choisir parce que je les connais pas tous. Mais ça, on va voir que dans la suite du culte, il y a un fil conducteur. Il y a vraiment quelque chose d'important parce que c'est le Saint-Esprit hein, qui. Je n'ai pas dit à Mathias de quoi j'allais parler ce matin. Il a beaucoup parlé des choses que je vais dire. Vous savez, quand on apporte un message. Eh bien, des fois, l'orateur, il veut dire des choses, et puis on ne comprend pas forcément ce qu'il veut dire, parce que peut-être qu'il s'explique mal, ou peut-être parce que c'est pas clair. Et je voudrais vous lire un court texte, un court passage sur la communication, qui va être marqué derrière moi, normalement. Entre ce que je pense, entre ce que je veux dire, ce que je crois dire, et ce que je dis, ce que vous voulez entendre, et ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, et ce que vous comprenez, eh bien, il y a au moins 8 possibilités de ne pas s'entendre. Alors, c'est pourquoi ce matin, j'ai demandé à Mathias s'il veut bien prier pour que le Saint-Esprit nous dirige, pour que ce que je dis, vous le compreniez, et puis que vraiment on soit sur la même longueur d'onde. Merci Mathias. Amen. Merci. Voilà, je vais vous lire, faire la lecture du psaume 40 de David, en tout cas la première partie, du verset 1 au verset 5. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Hein, c'est une belle première partie de psaume. Alors, dans ce beau psaume 40, le roi David exprime deux sentiments opposés, car il est pris entre deux feux. Alors, d'un côté, il vit une situation très éprouvante, physiquement, moralement et aussi émotionnellement, avec tour à tour la destruction de Tsiklag, hein, la ville dans laquelle il vit. Elle a été brûlée par les Amalécites. Il y a aussi une sévère défaite hein, d'Israël devant les Philistins. Il y a aussi la mort de Saül, l'ennemi héréditaire, mais respecté par David, et puis surtout la disparition de Jonathan, son ami d'enfance, pratiquement son frère, quoi. Et David, là, il est au fond du trou. Imaginez-vous, il était sorti avec sa troupe armée, hein, une troupe armée, et il avait laissé la ville de Tsiklag sans défense, sans rien. Et puis voilà que les Amalécites détruisent et brûlent la ville. Alors certes, les Amalécites n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené. Et quand David et ses gens arrivèrent, eh bien, la ville était brûlée, détruite, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à, imaginez ça, hein, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Et David fut dans une très très grande angoisse, car le peuple parlait même de le lapider. Vous vous rendez compte ? C'était lui le responsable, hein. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Alors David, il a commis une faute, il est accablé, son autorité est remise en cause, on veut même le lapider. Et puis, ses deux épouses ont disparu. Et là, David, ben, il pourrait tout lâcher. Hein. Il pourrait lâcher prise, sombrer, il pourrait déprimer, mais il ne le fait pas. Et pourquoi il ne le fait pas? Ben, parce que d'un autre côté, David ne manque pas de répondant. Hein, c'est un homme de caractère, c'est un battant. Tout jeune, déjà, il faisait preuve d'un immense courage, souvenez-vous, hein, face à l'adversité. Et à Saül, il dit un jour, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, eh bien je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » On l'aurait peut-être pas fait, nous. Hein. Non, c'est un homme battant. David, dans les situations difficiles qu'il traverse, n'est pas homme à abdiquer. Il n'est pas homme à renoncer. Il trouve toujours la force de se battre. Et cette force qui habite David porte un nom et s'écrit en 9 lettres, c'est l'espérance. L'espérance. Verset 2, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » David a appris dès sa jeunesse à mettre son espérance dans le Dieu qui l'a créé et qui l'a rencontré. Dans le psaume 22:11, il écrit « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Mais aussi dans le Dieu qui l'aime et qui le protège. Psaume 18:2 « Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Dans le Dieu qu'il sert comme son Seigneur. C'est son Seigneur. Psaume 16:2 « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » En réalité, pour David, compter sur Dieu, se tourner vers lui, espérer en lui, c'est une seconde nature. Il le fait automatiquement, c'est un réflexe presque pavlovien. Son espérance, c'est Dieu. Vous savez que, dans le langage populaire, courant, espérer, en tout cas pour nous, pour moi, ça signifie souhaiter, mais sans réelle garantie. On souhaite, mais bon, on n'est pas sûr, sans assurance. Mais pour David, espérer en Dieu, ça revêt un sens très profond, un sens très fort. Pour David, espérer, c'est attendre avec une ferme assurance. Et il attend quoi? Il attend l'intervention providentielle de son Dieu. Il la veut, il l'espère ardemment, il l'attend. Et depuis toujours, David a placé son espérance en Dieu. Et souvenez-vous, ça remonte à loin, mais qu'enfant, il n'a pas hésité à affronter le géant Goliath, qu'il va terrasser en disant « Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et toute cette multitude qui est là, eh bien, saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Ça, il fallait le dire. Hein. Face à un géant, qui était un homme de guerre. Dans le psaume 40, David témoigne que son espérance en Dieu n'est pas vaine. Son espérance, ce n'est pas une attente aveugle, irréfléchie, sans fondement. Non, au contraire, elle s'appuie sur une connaissance personnelle, parfaite de son Créateur. Il le connaît parfaitement. Psaume 121 que tout le monde connaît et qu'on a déjà chanté, hein. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il te gardera de tout mal, et il gardera ton âme. » Alors, il s'appuie aussi, bien sûr, sur une parfaite connaissance scripturaire de l'histoire d'Israël, qui raconte les interventions puissantes de Dieu pour son peuple. Dans le psaume 78, par exemple, eh bien, Asaph, le psalmiste, rappelle tout ce qu'un bon psalmiste doit faire et devrait connaître. Voilà ce qu'il dit. « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Il leur montra des merveilles. Devant leur père, il fit des prodiges. Il fendit la mer en deux et leur ouvrit un passage. Il fendit des rochers dans le désert. Et du rocher, il fit jaillir des sources, écouler des eaux comme des fleuves. Vous rendez compte ce que Dieu y fait? David connaît Dieu et il est aussi connu de lui. Alors il s'adresse à lui. Il sait que son cri ne va pas s'arrêter au plafond de sa chambre. Non, Dieu va l'entendre. Verset 2, « Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. » Dieu a écouté ses cris. Vous savez, Dieu est proche, il est à l'écoute, prêt à prendre soin de ses enfants, de celles et ceux qui l'interpellent avec sincérité de cœur. Alors, vous savez, si David crie, ce n'est pas pour se faire mieux entendre de Dieu, hein, Dieu n'est pas sourd. L'Éternel n'est ni touché par l'intonation, ni par le nombre de nos paroles, ou la qualité aussi de nos paroles. Pas plus non plus que par la puissance de nos décibels, mais par l'authenticité, par la vérité de nos paroles, de nos cris. Car vous le savez, on ne trompe pas Dieu. Dans le psaume 139, David écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » C'est fou. L'Éternel connaît déjà les paroles avant qu'on les ait prononcées. Si David crie, c'est parce que son cœur souffre et qu'il vient chercher en Dieu du secours. L'Éternel reçoit ses cris sincères comme un gage d'espérance. Et Dieu qui prend soin de ceux qui se réfugient en lui, eh bien, il va répondre, Dieu. Il répond. David exprime l'intervention providentielle de Dieu dans des termes très imagés, mais je trouve ça beau. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Cette fosse, ça devait être un endroit assez glauque, où l'on jetait des détritus pour les détruire. Lui, David, c'est un homme détruit. Il est détruit parce qu'il vient de vivre, et il dit même « je suis au fond de la boue ». Il est enfoncé dans les ennuis jusqu'au cou. Et David, du fond de son angoisse, de sa détresse, eh bien, reçoit l'aide de son Dieu. 1 Samuel 30, David commença à reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et l'Éternel dit à David, « Va, poursuis les Amalécites, car tu les atteindras et tu délivreras les prisonniers. » Et dans le psaume 25.3, David dit, « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. » Alors, voilà, David, il reprend courage parce que Dieu entend, répond, et Dieu lui donne la force de se redresser, de se relever de la boue. « Il a dressé mes pieds sur le roc », écrit David. Et ça, vous voyez, c'est le symbole d'une résurrection opérée par Dieu. Mais maintenant, il faut aussi trouver la force de poursuivre les Amalécites. Et c'est encore Dieu qui va le faire. Et David dit, ça y est, il a affermi mes pas. Alors, dit le texte de Samuel, David rattrapa les Amalécites, il les battit, et aucun d'eux n'échappa. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et en outre, David prit du butin, de menu et gros bétail aux Amalécites. Incroyable. L'espérance que David a placée en son Dieu, elle a été honorée. Dieu l'a entendue, Dieu l'a secourue. Il l'a même fortifiée et puis bénie en plus. Alors, ce qui s'est passé à l'époque de David est-il encore possible aujourd'hui? Oui, je vois grâce, il dit oui. Alors nous, avec Cordia, puis Julia et Solène, nous étions partis le 28 septembre en Belgique pour installer Julia à Bruxelles, où elle doit faire ses études. Le but du voyage, alors attention, c'était d'apporter 1220 euros en espèces à la banque pour constituer la caution de l'appartement de Julia. Et en arrivant à Bruxelles, tranquille, on était bien, nous nous sommes aperçus que nous avions oublié l'argent à Nancy. Et là, c'était la catastrophe, hein, c'était épouvantable, quoi. Alors, après le coup de massue bien légitime, C'est vrai qu'on aurait pu chercher qui était le coupable. Bon, c'était trop trouvé, c'était elle. À dire c'est de ta faute, voilà, machin, truc. Bah, on a eu un bon réflexe ce jour-là, c'est de placer notre espérance en Dieu. Et on a dit tous ensemble, Seigneur, viens à notre secours, aide-nous mon Dieu, car sans toi, Seigneur, eh ben on est mal. On est même très mal. Alors, bien sûr, humainement, on a essayé de joindre notre banque en France, mais ça ne passait pas. Aucun succès. Nous avons essayé de retirer de l'argent au distributeur, mais notre carte était plafonnée. Donc, sans le coup. Hein. Et puis, on avait rendez-vous avec la bancaire. Et Seigneur, on lui a dit, Seigneur, nous espérons en ton aide, viens nous aider. Alors, on s'attendait peut-être à ce que l'argent descende du ciel comme la manne. À 16h, nous sommes devant la banquière, qui ne sourit pas du tout. Elle essaye de joindre notre banque, impossible. Et si l'argent n'est pas là avant 16h30, eh ben on n'a pas les clés de l'appartement, c'est pas possible. Et ça ferme à 16h30 la banque. Alors comment avons-nous réussi à trouver 1230 euros? Alors ça reste un mystère. Soit 10 euros de plus, avec toutes les cartes qu'on avait sur nous, on a essayé de les mettre dans tous les distributeurs, ça, il y a eu de l'argent, en faisant nos fonds de sac, nos poches. Il n'y a que Dieu qui peut savoir comment on a réussi. Franchement, merci Seigneur. Quand on espère en Dieu, il ne nous déçoit jamais. Alors, il n'intervient pas toujours de manière spectaculaire, mais il pourvoit. Vous voyez, Jean-Pierre qui est là, racontait un jour cette histoire. Ça montre que j'écoute bien tes messages aussi. C'était pendant les grandes inondations, tu vas t'en souvenir. Un homme, pour sauver sa vie, était monté sur le toit de sa maison. Et comme les eaux montaient, il prie à Dieu pour qu'il le sauve. Et Dieu lui répondit, « Oui, je te sauverai. » Bientôt, un bateau apparut avec des sauveteurs à bord qui le prièrent de sauter dans l'embarcation. Mais il dit, « Non, j'attends le secours de Dieu. » Un hélicoptère apparut dans le ciel et on lui lança un filin, mais il dit encore, « Non, j'attends le secours de Dieu. » L'eau monta si vite que l'homme se noya. Et lorsqu'il parut devant Dieu, cet homme lui demanda, « Mais Seigneur, j'ai espéré en ta promesse, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi ?»« Mon enfant, lui dit Dieu, je t'ai envoyé une barque. » Et comme ça ne te suffisait pas, je t'ai aussi envoyé un hélicoptère. Et c'est vrai que très souvent, frères et sœurs, on attend de Dieu des miracles, des interventions spectaculaires, alors que Dieu utilise le plus souvent des moyens ordinaires pour nous secourir. L'espérance doit faire partie de la panoplie du chrétien, et avec elle, rien d'impossible à Dieu. Et moi, je pose la question, frères et sœurs, quelle est notre espérance ce matin ? En quoi plaçons-nous notre espérance? Parce que ce qui est important aussi dans l'espérance, c'est qu'elle conduit à la confiance. Lorsque, comme David, on espère fermement en l'intervention providentielle de Dieu, et que l'on vit des réponses à nos prières, des libérations, des bénédictions divines, eh bien, on ne peut qu'être touché et convaincu par la toute-puissance de Dieu et son infinie bonté envers ses enfants. Face à cette puissance qui nous dépasse, nous ne pouvons que nous sentir tout petits et même minuscules devant un Dieu si grand et si puissant. Dans le psaume 65 de David, il dit « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes, vous voyez, c'est énorme les montagnes, par sa force. Il est saint de force. » Il apaise le mugissement des mers. C'est fort Dieu, hein ? Cette hyperpuissance de Dieu suscite chez toutes celles et ceux qui la voient et qui la vivent un profond sentiment de crainte. Beaucoup l'ont vu, au verset 4, et ont eu de la crainte, dit David. Cette crainte ressentie traduit le respect profond que ressent l'homme face à Dieu. Mais en même temps, elle est inspirée par Dieu lui-même, cette crainte, pour que l'homme obéisse à ses commandements et aussi haïsse le mal. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Frères, sœurs, la puissante réponse de Dieu, la crainte qu'elle inspire, sont le fruit de l'espérance que nous plaçons en lui, et nous amènent tout naturellement à nous confier en lui. Alors, la confiance. Eh bien, dans le psaume 21, par exemple, David, il définit ce que c'est que la confiance. Il dit « Éternel, le roi, c'est lui, hein, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par tes bénédictions et par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu le lui as donné. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel. Avec tout ça, le roi, il se confie, forcément. La confiance peut être comprise certainement comme un état de sécurité, un état dans lequel on se repose sur Dieu, sur sa prévenance et sa bonté à notre égard, mais aussi parce qu'on le connaît comme le Dieu fiable et loyal, qu'on se confie en lui. Alors, la relation privilégiée qui unit l'homme à Dieu, cette relation intime est symbolisée par la superbe image du mariage. Paul, il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11:2, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Vous voyez, c'est une belle image, hein, que cette image de présentation. Lorsque nous nous convertissons, nous devenons un avec Christ, comme dans le mariage. Nous prenons son nom, nous devenons chrétiens. Nous nous réjouissons et nous rejoignons l'Église universelle qui est symboliquement l'épouse du Christ. Dans la relation humaine qui unit les époux, ce qui devrait ressortir, s'appliquer, se pratiquer, ce sont les promesses faites lors de la cérémonie de mariage. Hein, vous avez regardé aussi votre épouse dans les yeux pour lui dire « Je te promets de t'être fidèle toute ma vie, te respecter et prendre soin de toi dans les bons comme les mauvais jours. » Qui dit confiance dit fidélité, car sans fidélité, il ne peut y avoir de confiance. Alors, la fidélité. Le Petit Larousse définit la fidélité comme l'exactitude à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. Elle a aussi le sens de guide fidèle et de profond attachement. Pendant ce mois d'août, je suis allé travailler dans un autre centre où travaille Christiane, dans un autre service. Et je me suis occupé d'un jeune handicapé qui avait 9 ans. Un lundi, son papa l'a amené à Flavigny et au moment de partir, eh bien, l'enfant s'est mis à pleurer. Et parce qu'il ne voulait pas que son papa s'en aille, et il pleurait après son papa et après sa maman. Alors le père a dit à l'enfant, « Mais je dois aller travailler, il faut que je m'en aille. » Mais devant les larmes de son fils, il lui a dit, « Devant moi, il lui a dit, « Travaille en kiné, et moi je t'attends dans le couloir sur une chaise, je te le promets. » Alors le papa est sorti, et au bout de 5 minutes, l'enfant m'a dit, « Daniel, hein, ton papa il est parti. » Il n'est pas dans le couloir, il n'est pas sur une chaise. Hein. Bon, je suis allé voir, le papa n'y était pas. Quand Dieu fait des promesses, quand il s'engage, il tient ses promesses. Il nous a promis l'envoi d'un sauveur qui est venu en Jésus-Christ. Il nous a promis le Saint-Esprit qui habite aujourd'hui dans notre cœur. Il nous a promis la vie éternelle. Et nos noms sont déjà écrits sur le livre de vie dont a parlé Jean puisqu'il l'a vu. Dans Apocalypse 20, verset 12. Dieu, dans la Bible, a fait plus de 300 promesses qu'il s'engage à tenir. Dieu qui est fidèle s'engage et promet de s'occuper de nos besoins. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je prends soin de vous. Dieu qui est fidèle s'engage à nous protéger. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu qui est fidèle s'engage et nous promet de ne jamais nous abandonner. Oui, Éternel, aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Dieu qui est fidèle s'engage et promet de nous accompagner jusqu'au bout. Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu, en époux fidèle, honore ses engagements et respecte les promesses qu'il a faites à son épouse, l'Église. C'est-à-dire à nous. Hein. Dans la relation entre époux, le mari, il ne doit pas être le seul à s'engager. Vous vous rappelez, hein, pour ceux qui sont mariés. Il doit y avoir une obligation réciproque. Par exemple, lors de la cérémonie de baptême, qui confirme notre conversion, eh bien, on s'engage à reconnaître Dieu comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est une reconnaissance de son autorité sur notre vie et un engagement à lui rester fidèle. Je m'engage à ne pas avoir d'autre Dieu devant ma face. David lui a placé sa confiance en l'Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Dit le psaume 9, verset 11. Alors, quel est la hauteur de notre engagement avec Dieu. Alors, bien sûr, la confiance, l'espérance, c'est important, mais il y a les ennemis de l'espérance et de la confiance. Il y a de nombreux ennemis à l'espérance et à la confiance, et ces ennemis nous empêchent de nous appuyer fermement sur Dieu, sur sa providence et ses promesses. Et ce matin, je vous en propose trois ennemis qui font la guerre de manière continuelle. Le premier, c'est la peur. Qui n'a jamais eu peur? L'espérance et la confiance nécessitent de la tranquillité d'esprit, de l'assurance, mais aussi de la conviction. La peur est une brèche dans la muraille de notre sérénité. Dans Matthieu 14, vous savez, les apôtres étaient à bord d'une barque, battus par les flots au milieu de la mer. Jésus s'avança vers eux, marchant sur l'eau. Comme ils étaient effrayés, Jésus les rassura. « C'est moi, leur dit-il, n'ayez pas peur !»« Seigneur, si c'est bien toi, lui dit Pierre, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Alors Jésus lui dit, « Viens !» Alors Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et qu'il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Dans un premier temps, vous voyez, Pierre, il fait preuve de confiance. Il porte ses regards sur Jésus, il croit à la parole du Christ qui lui dit « Viens ». Il lui fait confiance et tout va bien. Mais lorsqu'il pose ses regards sur la réalité qui l'entoure, sur la tempête, sur les creux, peut-être des vagues énormes, eh bien lui, le marin, tout à coup, ben, il prend conscience humainement de la folie qu'il est en train de faire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on était à Bruxelles, et donc pour le déménagement de ma seconde fille Julia, et notre voiture était pleine de valises. Il y avait un congélateur, il y avait un four, il y avait plein de choses aussi sur la galerie. Franchement, on aurait cru qu'on était... Enfin, je sais pas quoi. Voilà. On devait recevoir donc les clés le lendemain matin. On n'avait pas encore la possibilité de tout débarquer. Et Wardy avait trouvé un hôtel avec un parking privé. Bon, moi j'ai dit, c'est bien, un parking privé, on va pouvoir mettre ça, on est protégé. Mais en arrivant à l'hôtel, on a appris que le parking privé, c'était le parking de la gare. Et on était pour le Molenbeek, et ça quand Anderlecht, c'était pas terrible. Hein. Enfin, franchement, vous voyez que vous garez votre voiture bourrée de valises à la gare de Nancy, vous voyez ce que ça peut faire, quoi. Alors là, j'ai laissé ma voiture, là, et puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Bon, je te la confie, quoi. Je te la confie, franchement. Bon, je rentre confiant, on s'endort, et la nuit, moi, j'ai un véritable combat, quoi. Un véritable combat, parce que j'ai des images qui m'arrivent de la voiture, des gens qui la piquent, qui... Et je dis, mais non, mais Seigneur, pourquoi tu la protèges pas? Puis non, je dis, non, Seigneur, je t'ai promis tout, je te fais confiance. Et bien, toute la nuit, j'étais obligé de lutter contre ça parce que j'avais l'impression que ma voiture, j'allais la retrouver sur les pneus, quoi. Enfin, sur les jantes. Et ben, le matin, quand je suis arrivé, j'ai dit merci Seigneur parce qu'elle n'a pas été touchée, quoi. Voilà, la lutte contre la peur. Mais il y a aussi une autre lutte, c'est contre le doute. Le doute, c'est une remise en cause de l'action de Dieu et sa capacité à apporter une réponse providentielle. Et moi, je pense qu'il y a deux sortes de doutes. Dans Marc 9, 22, on trouve le premier sens. Un jour, un père amena à Jésus son fils possédé d'un esprit muet. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit agita l'enfant avec violence. Alors le père dit à Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Alors peut-être que cette demande ce matin, elle choque personne. Et pourtant, elle a littéralement scandalisé Jésus. Il dit, « Si tu peux !» Parce que, en fait, le Père, qu'est-ce qu'il faisait? Il remettait en cause la possibilité, la capacité de Dieu à faire des choses. « Si tu peux !» Mais tout est possible à celui qui croit. En réalité, Jésus lui dit, « Dieu peut tout. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Toi, crois, c'est ton rôle, fais-lui confiance. » Voilà. Le premier doute, ça consiste à remettre en cause le pouvoir de Dieu. Peut-il faire? Est-ce que Dieu peut le faire? Un autre doute plus subtil, c'est vrai, c'est beaucoup plus subtil celui-là, c'est de remettre en cause le bon vouloir de Dieu. Oui, Dieu peut, mais le veut-il vraiment? À toutes celles et ceux qui ont un doute de cet ordre, moi je vais poser trois questions ce matin. Alors, jugez vous-même, vous êtes peut-être père et mère de famille. Comme vous, Dieu aime ses enfants. Il veut leur bien, ce qu'il y a de meilleur pour eux. Alors Jésus, lui, il pose cette question ce matin. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Qu'en pensez-vous? Et Jésus d'ajouter, si donc, pécheur comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Voilà, si on demande de bonnes choses à Dieu, il n'y a aucune raison qu'il ne les donne pas. C'est sa volonté. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et comment sommes-nous sûrs d'être dans la volonté de Dieu? Eh bien, Dieu nous le révèle par le Saint-Esprit qui est en nous, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà. Et puis aussi, la Bible nous dit en Colossiens 1,9, « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Et puis la troisième question, parmi nous, est-ce que Dieu parmi nous a-t-il déjà laissé quelqu'un qui se confiait ou espérait en lui sans aide, sans soutien ou sans solution? Est-ce que ça existe? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui se sont tournés vers Dieu et qui n'ont jamais eu ni aide, ni soutien, ni solution? Dieu est un père aimant et profondément soucieux de ses enfants. C'est vrai qu'il faut être conscient que Dieu veut nous faire du bien. Et puis le dernier, c'est la vanité ou l'orgueil d'ennemi. L'orgueil, c'est une estime excessive de soi. La vanité nous pousse à nous passer de Dieu ou à chercher une aide, un soutien dans l'homme ou des techniques humaines. J'expliquais un jour à un collègue de travail catholique, croyant et très pratiquant, que chaque jour je me confiais en Dieu et j'espérais en lui pour m'aider à trouver une place, même de parking. Alors quand je n'en trouvais pas, bien sûr, hein, et il m'a dit, moi je ne dérange jamais Dieu, je me débrouille toujours tout seul. C'était sa façon d'être. Frères, sœurs, Dieu quand même, il aime bien que ses enfants aient besoin de lui et sollicitent son aide. Il est prêt. David conclut son psaume 40 en disant « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance ». Une confiance bien placée, une espérance attendue et bien reçue mettent notre cœur en paix et le remplissent de bonheur et de joie. Est-ce que nous sommes heureux ce matin? Est-ce que nous sommes heureux? Et là, je vais conclure par la belle parabole des quatre bougies. Je vais conclure ce message. Parabole des quatre bougies. Dans une salle sombre, sous la surveillance d'un sage, il y avait quatre petites bougies qui brûlaient lentement. Il y avait la bougie de l'amour, qui se consumait tendrement, celle de la joie, qui était dans l'allégresse, celle de la paix, qui vivait calmement, et puis celle de l'espérance. Le sage s'endormit, et l'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre la conversation des bougies. La première dit « Je suis l'amour ». Et ce monde est rempli de haine. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance, même avec leurs proches. Je n'ai pas la force de rester allumée plus longtemps. Et sans plus attendre, elle s'éteignit. La seconde dit « Je suis la joie ». Et ce monde est si triste, si sombre. Les gens ne se réjouissent plus. Et ma propre flamme vacille. Non, je n'ai plus de raison d'être. Je crois que je vais aussi m'éteindre. Et elle s'éteignit. La troisième dit, je suis la paix. Mais ce monde est toujours en guerre. Et même dans les familles, il y a des conflits. Personne n'arrive à me tenir allumé. Et elle s'éteignit. Un jeune garçon entra prudemment dans la salle et voyant les trois bougies éteintes, il réveilla le sage. « Maître, dit-il, les bougies de l'amour, de la joie et de la paix se sont éteintes pendant ton sommeil. » Et s'adressant aux bougies, il leur dit « Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous deviez rester allumées jusqu'à la fin. » Et en disant cela, il se mit à pleurer. Le sage s'approcha doucement de l'enfant, plaça sa main sur son épaule et lui dit « N'aie pas peur, mon enfant. » Tant que demeure la flamme de l'espérance, elle peut redonner vie à toutes les autres bougies. Que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais dans nos cœurs. Voilà, c'était le message de ce matin.